Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on va se retrouver dans un instant pour commenter l'actualité plus générale, mais plus précisément l'actualité, c'est évidemment l'intronisation hier du nouveau président des États-Unis, Joe Biden, qui a pris place pour la première fois derrière le Resolute Desk de la Maison-Blanche. Une cérémonie qui a été très suivie, on le disait, qui a été très couverte d'ailleurs par les télévisions françaises. Jean-Claude Beaujour, bonjour. Merci bonjour. D'être avec nous. Vous êtes avocat, vous êtes président de France-Amérique. Vous connaissez extrêmement bien les États-Unis. Vous avez suivi cette élection depuis la France, cette fois-ci. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans cette journée hier?
Alors, c'est vrai qu'il y a, j'ai envie de dire, trois éléments qui ont été surprenant ou différent des autres inaugurations. Le fait qu'il y ait le coronavirus, évidemment, ouais, changeait complètement la nature de cette manifestation, qui est en général à la fois une manifestation extrêmement... Il y a beaucoup de cérémonial et en même temps, c'est un grand moment populaire. Politiquement, ouais, les gens se sont affrontés avant, ils vont s'affronter après, mais le jour de l'inauguration, c'est un peu une espèce de journée de communion d'union nationale, de communion nationale où les opposants se retrouvent. Vous l'avez un peu vu hier, mais oui, Mike Pence était un peu tout seul, oui, avec Bush comme républicain. Il y avait Mitch oui, McConnell. C'est vraiment un jour particulier avec de grandes fêtes, des balles présidentielles, etc. Ça n'allait pas être le cas avec le coronavirus. Ouais. Deuxièmement, ouais, la question de la
sécurité.
Il n'y avait pas cette liesse. Vous savez que, par exemple, pour Barack Obama, il y avait aux alentours de 4 millions de personnes, ouais, à Washington. Ouais. Là, quelques milliers, encore quelques happy few triés sur, même pas triés sur le volet, mais pour des questions de sécurité. En plus, il y a eu très peu de gens. Bref, ces deux éléments gâchaient un peu la fête. J'ajoute, évidemment, il y avait un grand absent, c'était le président en sortant, le président Trump n'était pas à la passation, oui, de pouvoir. Bien sûr. Ça, c'est vrai que ça donnait un côté
de... Il aurait dû être là parce qu'il y avait les trois autres présidents et on avait l'impression qu'il n'existait pas dans
son nom,
la lignée.
Son nom n'a même pas été prononcé. Mais, hein,
est-ce qu'il a fait une erreur finalement? Est-ce qu'il aurait dû être là?
Je crois que Valérie, sur votre antenne, on avait déjà dit, je vous parie qu'il ne sera pas présent.
Bien sûr, bien sûr.
Je pense que mentalement, psychologiquement et compte tenu de tout ce qui s'était passé avant, je ne suis pas surpris qu'il ne fût pas là. Est-ce que c'était souhaitable? Évidemment que non. Oui. Je pense qu'il avait une dernière occasion, non pas de se racheter, mais de se présidentialiser. C'est aux alentours du 8 décembre, lorsqu'il a eu épuisé les voies de recours, puisqu'il contestait la victoire de son challenge, de son concurrent, de Joe Biden. Lorsqu'il a eu épuisé les voies de recours judiciaires, il aurait dû dire voilà. La justice s'est prononcée, on est dans un état de droit, bon vent à mon successeur. Il ne l'a pas fait, c'est dans la logique, c'est juste regrettable parce que précisément pour l'Amérique, une Amérique qui est à ce point fracturée, ça ne peut que renforcer non pas simplement le sentiment, mais les velléités de chacun dans son camp. C'était d'un côté démocrate, de l'autre côté ses partisans, et c'était dommage parce que ses partisans sont aussi les Américains.
Mais le nom de Biden, le nom de Trump n'a pas été prononcé par Joe Biden également.
Bien sûr, tout comme Trump n'a pas prononcé le nom de Biden, si vous voulez. C'est la réponse du berger à la bergère. Évidemment que je regrette tout cela parce que je me souviens, vous savez, nous étions tous un petit peu plus jeunes. Souvenez-vous, en 2001, lorsque Al Gore a été battu par George Bush, alors même qu'au départ il contestait l'élection, c'est lui, en tant que vice-président candidat battu, qui a procédé à l'authentification des votes en faveur de son concurrent et qui était à la passation de pouvoir de son concurrent. Voilà, c'est un exemple pour vous dire, c'est dommage qu'on n'ait pas assisté, il n'y ait pas eu un dépôt des armes, quitte à recommencer à se battre
politiquement. Mais qu'est-ce qui vous a frappé, vous, au-delà de ça? Est-ce qu'il y a un moment particulier qui a été, qui vous a marqué,
en tant qu'observateur? Alors, c'est vrai qu'avoir une vice-présidente a été c'est un grand moment dans, dans l'histoire de la démocratie américaine, et comme je suis assez favorable à l'égalité au sens large, et notamment l'égalité homme-femme, c'est vrai que symboliquement, la politique, c'est aussi une question de symbole, symboliquement, le fait que pour la première fois, il y ait une vice-présidente des États-Unis, c'est aussi un message, c'est un exemple.
Mais est-ce qu'on n'est pas... Moi, j'ai le sentiment quand même, on ne sait pas grand-chose de Biden, enfin, c'est un vieux routier, vous l'avez dit, mais on a quand même l'impression que c'est le Messie qui arrive, que Kamala Harris, c'est une sorte de vierge. Y a quelque chose un peu extatique dans les commentaires qui ont été faits hier. On ne sait pas vraiment, on a l'impression que Biden va révolutionner, qu'il est le sauveur de la démocratie. Attendons de voir.
Alors, vous me connaissez un peu, vous savez bien que les commentaires excessifs, c'est pas trop bon genre. Oui. On a toujours dit, le président des États-Unis et le nouveau gouvernement vont, l'un et l'autre, défendre les intérêts des Américains, premièrement. Ouais. Deuxièmement, on a toujours dit que la crise que traversent les États-Unis, c'est pas une crise uniquement liée à la personne de Donald Trump. C'est une crise qui est bien ancienne, avec des politiques publiques qui n'ont pas été ou mal mises en œuvre, y compris avec des démocrates. Mmh. Donc, il faut pas se raconter d'histoire d'un coup de baguette magique. Les choses, on va pas régler le problème, par exemple, le problème de santé publique, en fait, la politique de santé publique, en 100 jours, ça n'est pas vrai. Ouais. La transition écologique ne se fera pas en 100 jours. Et enfin, je m'arrête là, la question des divisions ethno-raciales aux États-Unis ne va pas se régler d'un coup de baguette magique, ou plus largement, la question de la pauvreté, parce que les États-Unis, ce sont deux mondes. Ça peut être le tiers-monde et ça peut être ces villas des millions, milliards de dollars, des millions de dollars en tout état de cause.
Oui. Vous êtes le président de France vice-président de France-Amérique. Comment il est, Macron, avec Biden? Est-ce qu'il va mieux s'entendre avec Biden qu'avec Trump, ou il était très pote avec Trump? Est-ce que c'est une bonne chose pour nous?
Alors, je pense qu'en politique, il n'y a pas de pote. Il y a des hommes et des femmes qui défendent des intérêts. En revanche, cela étant dit, il peut y avoir une sensibilité personnelle qui fait que des affinités qui font que les hommes et les femmes, et ça c'est vrai aussi, ça compte, se comprennent mieux. Une chose est certaine, c'est que le passé étant ce qu'il est, on ne parlera plus, en tout cas dans l'immédiat, de Donald Trump, mais de Joe Biden. Le vice-président, voyez l'erreur, le vice-président, le nouveau président des États-Unis est un homme connu sur la scène internationale parce qu'il a été, il a présidé de nombreuses commissions à dimension internationale au Sénat. Il a été le vice-président de Barack Obama. Il a un certain nombre de collaborateurs qui connaissent bien la France. Je pense évidemment à John Kerry et je pense également à Tony Blinken, mais pas seulement. Eh bien, tous ces gens-là ont des liens avec la France qu'ils cultivent bien. Il est évident que pendant la transition, des contacts ont été pris et tout cela devrait permettre un dialogue plus fructueux. Maintenant, on verra comment répond le gouvernement américain à la proposition qui a été faite par la présidente de la Commission européenne, par exemple, aujourd'hui, c'était hier, d'avoir une vision plus stratégique de la relation transatlantique. Bref, de rebâtir remoduler la relation transatlantique.
Enfin, c'est America first. Hein. Il ne faut pas l'oublier, de toute façon, c'est normal,
je pense qu'il ne faut pas... Imaginez un instant, demain, que Emmanuel Macron vous dise, je prends n'importe quel pays, dans la relation avec même les États-Unis ou l'Argentine, tout ce qu'on veut, je vais être gentil avec eux parce que je les aime bien. Il va d'abord, et on lui demandera d'abord de défendre nos intérêts, et c'est ce qui compte. En revanche, cela ne veut pas dire, parce que les Américains vont défendre leurs intérêts, que nous n'avons pas une place, et en tout cas quelque chose à faire. Il nous appartient en revanche d'avoir, et je pense que dans ce sens, la présidente de la Commission européenne a bien fait, on l'a déjà dit sur votre antenne, il nous faut d'abord définir ce que nous voulons dans le cadre de la relation transatlantique pour pouvoir avoir des éléments à mettre sur la table de négociation avec les Américains. Mais pas simplement d'attendre que les choses se fassent, parce qu'on risquerait d'être déçus.
Quid de la fraude électorale? Beaucoup de nos auditeurs nous disent l'élection a été volée, l'élection a été truquée.
J'aurai une double casquette, y compris la casquette d'avocat. On dit là-dessus des fraudes électorales, ou en tout cas des irrégularités, parce que souvent parce que toutes ces questions sont un peu complexes, on confond fraude électorale et irrégularité électorale. La fraude, c'est lorsqu'on a véritablement, on organise les choses. On va rajouter des bulletins. L'irrégularité, c'est par exemple le fait que un bureau de vote se soit ouvert avec une demi-heure de retard ou est fermé avec une demi-heure d'avance. Bon. Il y a des fraudes partout et tout le temps. Enfin, des fraudes. Il y a des irrégularités partout, y compris en France, où on a même retrouvé des irrégularités lors de la dernière, l'avant-dernière campagne présidentielle. Donc, si vous voulez, ça arrive partout. Là-dessus, malheureusement, la démocratie est ce qu'elle est. Les juges regardent, et on peut être en 30 secondes technique, les juges regardent si les irrégularités, qu'elles soient volontaires ou pas, dans leur volume, ont pu avoir un impact sur la sincérité du scrutin et à partir de là décide si on peut ou on doit ou pas annuler un scrutin. 60 juridictions se sont, on voit d'abord les choses de manière juridique, 60 juridictions se sont prononcées et n'ont pas fait droit à la demande du président sortant, alors même que le président a nommé un certain nombre de juges, y compris les juges fédéraux. Il n'y avait pas que les juges de la Cour suprême. Donc là-dessus, à un moment donné, il faut accepter qu'en démocratie, la justice tranche. Sinon, il ne faut pas s'en tenir à des impressions. Sur l'élément politique, on me dit oui, il y a toujours eu des fraudes, mais jusqu'à preuve du contraire, les gens ont été élus avec le même mode de scrutin. Et là encore, si les Américains, j'ai envie de dire le corps social, ne sont pas satisfaits du mode électoral, en tout cas du processus par lequel sont désignés leurs représentants démocratiquement, il leur appartient de le changer. Je note que Donald Trump n'a pas entrepris une grande mesure, alors qu'il avait une majorité large,
il aurait pu dire
je fais le grand nettoyage, je toilette tout cela.
Allez, on va marquer une pause et on se retrouve, vous restez avec nous, Jean-Claude Beaujour, on va continuer à parler des États-Unis sur cet espoir qui est placé en Joe Biden. Il a dit hier, nous allons refaire des États-Unis la grande nation du bien dans le monde. Parce qu'il y a tout cet aspect aussi religieux qu'on pourra évoquer, qui est très fort. Alors on est en France, ils sont aux États-Unis, donc c'est sûr que ce sont des choses qui nous frappent. À tout de suite sur Sud Radio.
Réagissez maintenant.